Avec l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et contre la peine de mort.
Bonjour à tous et bienvenue sur ce billet de l'ACAT. Je m'appelle Jean Déo et je fais partie du groupe ACAT du Pays Basque. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire de Marie Durand, une humble paysanne protestante née sous le règne de Louis XIV. Marie Durand est née en 1715 au Boucher de Pranles, dans le Vivarais, au nord de Privas, d'Étienne, son père, greffier consulaire, et de Claudine Gamonnet, qui était un couple profondément protestant, bien que converti de force à la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Elle a un frère plus âgé qu'elle, qui s'appelle Pierre, et qui est né en 1700. La région est, au début du XVIIIe siècle, traversée par des mouvements de prophétisme, indice du désarroi dans lequel se trouvaient les communautés huguenotes à cette époque. Étienne Durand, son père, est lui-même emprisonné en juin 1704 pour avoir prophétisé. Ses enfants, Marie et Pierre, qui doivent se rendre à la messe catholique et au catéchisme, ont reçu également une instruction protestante clandestine. Pierre Durand, le frère de Marie, participera à l'organisation de l'Église réformée et sera consacré pasteur en 1726. Voilà donc que le 29 janvier 1719, un culte clandestin chez Étienne Durand, le père de Marie, est surpris par les soldats du roi. Pierre, qui prêchait, s'enfuit et gagne la Suisse. Claudine Gamonnet, la mère de Marie, est conduite à la citadelle de Montpellier. Sa maison familiale sera détruite. Puis, vers l'automne 1720, Pierre rentre en France. Il va se marier en 1727 avec la sœur d'un de ses amis, condamné aux galères, appelée Anne Rouvier. Et pour s'emparer de lui, les autorités s'attaquent à sa famille. Étienne, le père, sera de nouveau arrêté en février 1729 et enfermé au fort de Brescou, au large d'Agde, où il restera emprisonné pendant 14 ans. Il mourra en 1749 à l'âge de 92 ans. Pierre, quant à lui, continue son ministère en Vivarais. Ses parents emprisonnés, Marie se retrouve toute seule. Et sans doute par besoin de protection, elle se marie en 1730, à 15 ans, avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Il a environ 40 ans, appelé Mathieu Serre, et ceci contre l'avis de Pierre, son frère, le pasteur. Mais dès le 14 juillet 1730, les époux sont arrêtés. Mathieu Serre est conduit au fort de Brescou, dont il ne sortira qu'en 1750, et Marie est envoyée à la Tour de Constance à Aiguemorte. La Tour de Constance est un lieu traditionnel d'emprisonnement des protestants depuis la fin du XVIIe siècle. Et à partir des années 1720, il est réservé aux femmes et aux enfants, bien sûr, car certaines y ont accouché. Et lorsque Marie Durand y rentre, 28 femmes s'y trouvent déjà. Des prophétesses pour beaucoup, venues pour la plupart du Languedoc, quelques-unes du Vivarais. Marie Durand sera internée simplement pour avoir été la sœur d'un pasteur, et elle allait y croupir pendant 38 ans. Les prisonnières ne sont cependant pas sans lien avec l'extérieur, puisqu'elles peuvent recevoir des lettres et en écrire. Marie, la plus jeune des captives, prend vite l'ascendant sur ses compagnes, malgré la douleur causée en 1732 par l'arrestation et l'exécution de son frère, qui sera pendu en place publique. Elle soutient celle qui se décourage, tente d'empêcher les abjurations qui pourtant permettent la libération immédiate, et devient l'âme de la résistance face aux pressions catholiques, au point qu'on lui attribue sans aucune preuve la célèbre inscription « Résister » qu'elle gravera sur le mur de la margelle de la prison. Elle écrit aussi de nombreuses lettres en son nom et pour ses compagnes afin de demander des secours, de remercier les donataires ou pour donner des nouvelles au pasteur Paul Rabaut de Nîmes qui est devenu dans les années 1740 le véritable chef du protestantisme français. Elle rédige même une lettre personnelle adressée à Madame de Pompadour, restée sans réponse bien sûr. Il y a peu de choses à dire de la vie en captivité, évidemment très monotone. On compte entre 20 et 30 prisonnières dans la tour. Des libérations ont lieu de temps en temps. Certaines femmes meurent à la tour, d'autres y arrivent. On note par exemple 4 nouvelles arrivées en 1737, dont Isabeau Menet, coupable de s'être rendue à une assemblée et qui sera une grande amie de Marie Durand. Les premières libérations non précédées d'une abjuration ont lieu en 1762, grâce à un nouveau commandant militaire. Ce n'est cependant que le 11 avril 1768, sous le règne de Louis XV maintenant, que l'ordre de mise en liberté de Marie Durand est envoyé au lieutenant du roi. Elle quittera la tour le 14 avril, au bout donc de 38 ans de captivité. Les dernières prisonnières seront délivrées plus tard. Marie reviendra dans sa ferme natale avec une amie emprisonnée comme elle et infirme, vieillie avant l'âge, elle mourra à l'âge de 61 ans en 1776. Donc, que nous dit cette histoire tragique qui n'est pas sans rappeler celle que nous connaissons à la CAT de tant et de tant de prisonniers de conscience? Peut-être trois mots peuvent résumer cette vision des choses. Mécanique répressive, foi en la vie et soutien des autres. Tout d'abord, les mécanismes. On retrouve la répétition des mêmes mécanismes mis en pratique de nos jours par les autorités pour obtenir la reddition des opposants. On pourrait tout à fait juxtaposer l'histoire de Marie et de sa famille à ce qui se pratique de nos jours, par exemple en Israël-Palestine, où le gouvernement s'attaque à la famille des opposants avec destruction de leur maison, emprisonnement arbitraire. Ce sont des intimidations censées éroder le socle familial, autant d'exactions qui renforcent les opposants conscients de la justesse de leur combat. Le deuxième point, c'est foi en la vie. Oui, pour les prisonniers de conscience, l'absolue foi en la vie et en des jours meilleurs à travers leur engagement pour les droits de l'homme est fondamentale. Et Marie Durand, en prononçant le seul mot de j'abjure, aurait pu sortir de cette prison devenue sa sinistre demeure pendant tant d'années. Mais elle ne l'a pas fait, bien au contraire. Marie, jour après jour, a gravé ce beau mot de résister avec sa quenouille, dans le silence, dans la monotonie des jours obscurs, la dureté de sa condition. Résister, oui, résister à tout prix comme le font aujourd'hui du fond de leur cachot tous ces prisonniers que nous suivons à travers le monde, victimes de gouvernements totalitaires. Et le dernier point, c'est la nécessité absolue pour les prisonniers d'être soutenus. Marie l'était, entourée de ses compagnes d'infortune. Elle l'était aussi grâce à ses correspondances par des lettres échangées avec l'extérieur, et ceci redit l'importance des associations comme l'ACAT, dont le but est de créer et de garder des liens auprès de ses frères humains dans les couloirs de la mort, ou enfermés dans quelques prisons, ou bien torturés pour s'être opposés à l'arbitraire. Oui, ces liens que nous fournissons, ces lettres que nous écrivons aux autorités, ces prières que nous faisons, sont autant de contentions de tendresse à l'égard des victimes de l'arbitraire. Alors, la fragilité, la petitesse de nos actions, qui sont des prières, lettres, à la portée de chacun, sont de petits outils permettant des appuis, des bouffées d'oxygène et quelquefois des libérations. Et ça, c'est vraiment évangélique. casser le mur du silence, de l'indifférence, rompre l'isolement par de si simples et petits moyens. Voici un beau programme. Merci pour votre écoute. Et j'enchaîne pour vous annoncer donc que nous vous invitons à une réunion, une célébration qui s'appelle la Nuit des Veilleurs. La Nuit des Veilleurs a été instaurée par les Nations Unies tous les 26 juin. Et donc à Bayonne, nous allons faire cette réunion le 28 juin, le mercredi 28, à 19h à l'église Saint-Léon d'Anglette. Cette réunion donc sera l'exposé des conditions de vie de certains prisonniers et des actions de la CAT centrées autour de la prière collective et des chants. Et tout le monde est chaleureusement invité à cette soirée. Merci.
Avec l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et contre la peine de mort.